nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Il fait chaud, très chaud cette nuit. Il a dormi en t-shirt et slip sur le dessus du lit, la fenêtre ouverte. Il a dormi, mais mal dormi. La chaleur l'a réveillé plus d'une fois. Cette fois, il se réveille, regarde l'heure, il est 4h48. Il fait encore nuit. Il décide de dormir. Se lève. Pour aller pisser, et revient. Il s'aperçoit qu'il a froid. Or, il se met sous les couvertures. Il se dit que ça vaut la peine de dormir un peu, ferme les yeux, se sent bien et s'endort. Alors il rêve qu'il vient d'être embauché, commis, peut-être manœuvre dans un magasin. Dans un magasin sinistre qui vend surtout des appareils photographiques. Le magasin est vieux, pas très propre. Il est dirigé par une jeune femme dans les 30 ans, maigre, cheveux plats. Elle semble très énergique. Il y a aussi des employés. La femme, après l'avoir embauché, quitte le magasin. Et Gilbert a à faire des courses. Il doit y aller pendant les heures de travail et c'est urgent. Mais avant de partir, un homme vient vers lui. C'est un client et en même temps une personne qui connaît le magasin et les gens qui y travaillent. L'homme dit « J'ai appris que vous vendiez en promotion un appareil photo. » Il lui dit qu'il ne savait pas. L'homme regarde tout de même les appareils photo qui ont tous un coffret en carton beige. Il lui en montre, mais en lui disant que ce n'est pas son travail. Qu'il ne doit pas le faire. Gilbert lui dit « Prenez celui-là, etc., etc. » L'homme regarde un appareil et dit « Celui-ci est bien, mais il est cher. »« Combien ?» Gilbert lui dit « 600 francs. » Gilbert se dit qu'il s'attendait à plus. Il lui montre un autre appareil. La patronne revient. Gilbert va vers elle et lui dit « Ce monsieur cherche un appareil photo en promo et je ne sais pas lequel. » Elle lui dit « Ce n'est pas grave. » Gilbert lui dit « Bon, eh bien, je vais faire mes courses et je reviens. » La femme lui dit « Vous pouvez moins voir votre famille avec vos horaires. » Il lui dit « Je m'en fiche et puis c'est tout aussi bien. » Elle lui dit « Bien, vous partez faire vos courses, oui, et il s'éloigne. Il a envie de pisser, entre dans les WC dans l'entreprise, ouvre sa braguette, mais il n'a pas le temps de guider son jet qu'il pisse à terre et ne peut pas se retenir. Il a honte parce qu'il voit que dans la pièce, que sa pièce où il pisse, la cloison de la porte, la pisse est passée à travers. Il a enfin fini de pisser et se demande ce qui lui est arrivé. Pourquoi n'a-t-il pas pu se retenir? Il referme sa braguette. La patronne donnait des ordres pour nettoyer. Il sort, voit que sa pisse a été arrêtée par un trou sur le sol. Une femme s'apprête à nettoyer et elle est avec elle, la patronne. Gilbert lui dit « Je suis navré, je vais nettoyer. » La patronne lui dit « Mais non, vous devriez être parti. » Il reste confus. Elle lui dit « Mais tout de même pas rester comme ça, me donner des détails à tout ça. » Il lui dit « Non. » Elle lui dit « Eh bien allez, à vos courses. » Il lui dit « Oui. » Puis, Gilbert s'est réveillé. Il regarde le réveil, il est 5h35. Il se demande pourquoi il a fait un rêve pareil. Un rêve dont il se souvient de tous les détails. D'ailleurs, il veut l'écrire. Il est encore dans son rêve. Il se lève. Va pisser. Revient. Se déshabille pour prendre sa douche. Puis, il retourne dans sa chambre. S'habille. Et s'assoit à son bureau pour écrire. Il se demande pourquoi il a rêvé à une chose comme celle-là, une chose qui n'a rien à voir avec lui, ni avec sa vie, ni avec ce qu'il a entendu, ou vu. Il comprend que les rêves peuvent faire revivre des choses qui sont dans lui et en même temps qui ne sont pas de lui. En mélange entre réalité et non-réalité. Et malgré tout, le rêve devient moi. Pourquoi certains rêves comme celui-là, qui ne correspondent à rien, puisque le rêve vient de soi, il ne devrait pas être des choses qui sont étrangères aux dormeurs. Qu'est-ce que le rêve, si c'est autre chose, s'il est indépendant à soi? Et pourquoi est-ce que certains rêves qui sont indépendants à soi nous font-ils un tel effet? L'on peut rêver que l'on pisse parce que l'on a envie de pisser, ça peut être logique. Mais rêver que l'on vend des appareils photo chez un grossiste alors que je n'ai jamais mis les pieds chez un grossiste en appareil photo, et pourquoi faire ce rêve? Un rêve sur ce sujet, je n'ai ni lu de livre, ni vu de film sur ce sujet. Alors, et cette patronne si gentille qui accepte toutes mes fautes? Quoique la patronne ressemble à l'actrice qui joue dans la monitrice ou l'institutrice dans le film Classe de neige. Vous me direz qu'il y a aussi l'histoire de pipi au lit, mais pas de photo. Et puis, ce n'était pas dans un magasin, mais dans une classe. Alors, le coin qui fait les rêves dans le cerveau est capricieux, il n'en fait qu'à sa tête. Gilbert se demande, peut-on connecter les rêves des gens? Cela qui pourrait servir à leur changer leur personnalité et à défouler. Comme ça, après s'être défoulé une bonne partie de la nuit, la journée, ils sont plus calmes. Celui qui détiendrait le pouvoir des rêves, il détiendrait les hommes. Gilbert a fini d'écrire, mais il a des difficultés à sortir de son rêve, c'est-à-dire à passer à autre chose. Le lendemain après-midi, Nathalie revient de ses cours et va retrouver sa mère au salon.
Entrez. Sa mère est assise dans un fauteuil. Elle va vers elle. Bonjour, mère.
Lui dit. Bonjour. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu es allée hier à Lyon, hier après-midi. Nathalie lui dit.
J'ai pas pu t'en parler parce que ça paraît tellement invraisemblable que je ne peux te le dire.
Eh bien, dis-le-moi.
J'ai rencontré une femme. Oui, une femme. Et elle est venue à moi. Elle m'a donné une adresse. Je suis allé, c'était près de Lyon, dans un cimetière. Qu'est-ce que tu as vu dans ce cimetière ?
Rien, mère. Rien du tout. La tombe que je devais voir, d'après le mot, était abandonnée depuis très longtemps.
Le nom de la personne qui était enterrée ?
Il était effacé. Et puis la tombe est vide. La mairie n'a rien pu me dire.
La mère lui dit, « Ne va plus jamais là-bas. »
Nathalie se dit, « Sa mère semble me croire. C'est qu'elle sait. »
Elle dit à sa mère, « Vous connaissez quelque chose sur cette tombe, mère ?»« Non, pas du tout. Mais j'ai peur pour toi. »
Nathalie se dit, « C'est faux. Autrement, elle aurait fait une scène. »
Elle doit savoir quelque chose. Mais quoi ?
Elle se dit aussi que ce doit être la clé du mystère, cette tombe.
Dans un bureau très moderne se trouve un homme grand, mince, cheveux gris, est habillé d'un costume noir. Il est assis en face du bureau trois hommes. L'homme leur dit, trouvez une solution. Parce que les informations gravé en numérique, il ne faut pas qu'elle disparaisse. Vous savez qu'un CD et tout ce qui est support numérique a une durée de vie très courte. 15 ans, c'est peu. Et on a stocké presque toutes nos informations de cette façon, ce qui est très dangereux. Si un jour elles disparaissent, il ne restera plus rien de la mémoire humaine. Heureusement que nos ancêtres n'ont pas fait comme nous, parce qu'il ne resterait plus rien et nous saurions rien d'eux. Pour le moment, le support, le moins fragile, le plus simple, c'est le papier. C'est celui qui dure le plus longtemps. Il faut garder ce support et en même temps trouver une solution pour le numérique. Peut-être graver les informations numériques sur d'autres supports. Certains pensent y graver sur du verre. Le verre se brise facilement aussi. Cherchez. Et puis, cherchez aussi ce qui s'est passé il y a 20 ans. Les ondes ont disparu de la Terre et plus rien ne marchait. Plus d'électricité, plus rien. Là aussi, nos supports se sont effacés. Il faut savoir pourquoi. Peut-être est-ce dû à la lumière. Les jours passent. Charlotte a décidé de partir avec quelques amis au château de Bourgogne et de leur faire visiter. Elle dit à son mari,
« Très drôle, tout le monde va bien s'amuser. »
Il lui dit, « Si ça t'amuse, fais-le et ça nous évitera de faire encore une satanée soirée. »
Et elle écrit ses invitations. Ça se passera dans 15 jours. Elle louera un quart
pour mener tout le monde. C'est plus pratique que chacun vienne avec leur voiture. Elle demande à Gilbert de venir avec elle et lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec vous ?»«
Tu m'aideras. Allez, viens !»
Il lui dit « Bon, je viendrai. » Il y a une trentaine d'invités, ça coûtera moins cher que d'organiser une soirée avec 500 personnes. Dans les cars, ils sont fous. Ils sont comme s'ils étaient des gosses. Ils chantent des chansons, des colonies de vacances, font des blagues. Charlotte est aux anges. Gilbert s'ennuie. Ils sont arrivés au château, les deux mystiques. Qui ont été prévenus et qui ont pu embaucher des gens pour les aider, on leur donne à chacun une chambre. Il y a des cris « Ah, oh, charmant, délicieux, extraordinaire !» Puis tout le monde s'est retiré dans sa chambre. Gilbert est allé dans la sienne et s'est allongé. Il se dit, si les fantômes du château pouvaient les faire fuir. Ensuite, on a l'idée, soi-disant détendue, mais en fait tendue, car les gens étaient concentrés. On a fait semblant de rire sur des blagues. Puis la soirée a commencé, la première soirée. La première soirée a été calme, très calme. Le lendemain matin, visite du parc. Dans l'après-midi, visite du château. Elle leur dit « Ne faites pas attention, je vais tout modifier, rajeunir. » On lui dit « C'est très bien comme ça. » Gilbert se dit « Oui, c'est très bien comme ça. » Et lorsqu'un château est remis à neuf, ça fait nouveau riche. Et ça perd son âme. Dans la soirée, on continue la visite.
L'invité trouve une porte sous les escaliers.
Quoi ? Un passage pour la cave. On va voir, mais il n'y a rien à voir.
Si. Allons voir, ce sera peut-être très drôle. Il y a peut-être des chambres de torture. Charlotte lui dit.
C'est ridicule. Mais puisque vous voulez, allons-y. Prenons des lampes torches et habillons-nous chaudement. C'est très humide.
Elle demande aux domestiques de leur apporter des lampes torches et aux invités d'aller se vêtir. Chacun va dans sa chambre chercher une veste. Puis, ils sont descendus. La mère les guide. Gilbert ferme la marche. Escalier humide. Et c'est noir, non couloir de cave, sol en terre, porte de cave. On y voit peu. Les gens frissonnent rien qu'en voyant les ombres de leurs voisins apparaître sur les murs. Certaines portes de cave sont ouvertes, mais vides. On dit, vous voyez, il n'y a rien à voir. Tout à coup, ils entendent un bruit bizarre. Un rire démoniaque. Tout le monde prend peur, panique, veut s'en retourner. On tourne en rond. On ne sait pas où est la sortie. Ça crie, c'est la panique. Gilbert, au milieu de tout ça, ne sait comment faire. Et tout le monde se retrouve dans la grande salle. On ne sait comment. On pense à Charlotte ce qui s'est passé. Elle leur dit, je ne sais pas du tout. Une chapelle souterraine, sûrement. Un grand souffle. Et tout le monde s'est retrouvé à terre, des cris. Se relève, il voit une porte, il leur dit, allons voir la porte là-bas. Il y va, il ouvre la porte n'était pas fermée à clé. Ils y rentrent, long couloir, mais humide. Avec des chauves-souris. Les gens sont effrayés. Puis, il y a un autre long couloir avec une porte. Gilbert va ouvrir la porte.
Gilbert ouvre la porte. Et on se trouve dans le jardin. Tout le monde rit de ses frayeurs. Ça fera un bon sujet de conversation. Ils pourront en rajouter autant qu'ils le désireront de choses supplémentaires. Puis, on rentre petit à petit au château. La mère fait servir un remontant chacun. Et comme elle voit que tout le monde est excité, elle met la chaîne en marche pour improviser une soirée.
Comment ? Vous êtes pas de tout ?
Non, j'ai un peu de migraine. Je vous laisse la place.
Oh, mais je ne veux pas.
Si, je vous en prie.
Chacun se détend. Et boivent comme des fous.
Alors, pas de changement ?
Non, non, c'est parti.
Gilbert regarde ces gens.
Votre mari prend le train ?
Cela
prend l'avion pour rester plus longtemps près de moi.
Les fascine.
Tu rentres chez toi et à minuit et quart, je vais te chercher.
Fur et à mesure que la soirée avance, les gens se détendent, sont très excités. Puis, petit à petit,
tu verras. Je préfère te laisser la surprise.
Ils se défoulent.
Laisse-moi faire, tu veux bien.
Tiens.
Merci.
Viens, va-t'en maintenant.
À tout à l'heure.
Je suis. Je vous ai fait peur.
Cette histoire leur a appelé.
Vous êtes une des personnes que j'ai le plus de
leur enfance. Mais pour Gilbert, ça leur rappelle.
Alors, bon,
je ne réponds plus à mes lettres. Nous nous trouvons, on est allés
l'histoire
à chaque fois que tu le dérobes.
Avouez que j'ai du flair.
Du dieu des mouches, où des enfants
voilà près d'un an que notre
très civilisés devenaient petit à petit de petits sauvages.
Folie maintenant, oui, mais à l'époque, sagesse, grande sagesse. Si, qu'est-ce qu'elle fait du sport ?
Et petit
l'amour,
à petit,
les deux, dis donc, toi. Écoutez,
certains habités ont des difficultés. À se retenir.
On va jouer à bois.
Il se défoule érotiquement.
Montre-moi ta jambe, je te dirai qui tu es.
La boisson y est dans. La mère de Gilbert, elle aussi, très excitée, l'empêche de voir la débauche autour d'elle. Les femmes sont aspergées de vin et sont léchées par ces messieurs. Des messieurs ont des gestes un peu lestes pour des jeunes gens.
Et toi ?
Moi, je me fais peur.
Peur de quoi ?
Ah, je sais pas.
Un jeune de 18 ans, à moitié nu, fait la danse du scalp. Ce qui excite une grande partie des gens.
Eh bien, celui qui clignera aura droit à une distraction. Ah. Allons, messieurs.
Suzy.
Oh, non.
Madeleine.
Non.
C'est Lola.
Oh.
Ah, c'est Ginette.
Non, mais non, pas du tout. Allons, Jessie.
Tu permets ?
Mais tu vas pas me laisser seule, Jacqueline.
Je reviens tout de suite.
Laissez-le passer. Ne poussez pas la lumière. Allons.
Oh, Hélène.
Oui. Ce n'est pas très malin, vous savez
C'est pas la première fois que j'ai su la voir.
Oh, mauvais genre.
On aurait dû prendre quelqu'un de moins connu.
Oui. Que des gens, quoi.
Alors, qu'est-ce que maintenant?
Oui, maintenant, oui. Vous présentez une de ces dames dans le plus simple appareil.
Ah, oh, c'est chic, alors.
Ah oui, mais masquée et dans l'obscurité. J'éteindrai, j'allumerai. Et en une seconde, vous devinez qui c'est. Hein? Allez, les mesdames, allez-vous préparer. Allez-vous, messieurs, retournez.
Vous n'avez pas l'air de vous amuser. Mademoiselle, vous me rappelez une personne que j'ai beaucoup aimé.
Vous ne dansez pas, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas. Qu'est-ce que vous faites, alors?
Quel salon, madame. Je ne voulais pas que nous vous accompagnions jusqu'à là.
Au petit matin, tout le monde va petit à petit se coucher, fatigué, éméché. La mère garde de la fête. Grâce à la fatigue, elle n'a rien vu qu'une grande fête, sans voir l'indécence. Son innocence à protéger est satisfaite de sa soirée.
Comment? Vous ne fixez pas de tout?
Non, j'ai un peu de migraine.
Allez,
je vous laisse la place.
Oh, mais je ne veux
pas. Gilbert a beaucoup ri en voyant ces gens si bien, si mal se tenir, si respectables devenir de vraies bêtes.
Alors, pas de changement?
Non, non, il part tout à l'heure.
Mais lui n'a ni bu ni participé.
Votre mari prend le train?
Se sent en dehors de ces choses. D'ailleurs, il n'aime pas ce genre de goût. Il aime la simplicité. Comme tous les gens nobles,
tu rentres chez toi et à minuit et quart, je viens chercher.
Il aime une vie simple, dans un décor simple.
Il
n'aime pas les plaisirs effrénés.
Enfin, où veux-tu m'emmener?
Tu verras. Je préfère te laisser la surprise. Laisse-moi faire, tu veux bien?
Tu y tiens.
Merci.
Lendemain, tout le monde s'est levé dans l'après-midi, les premiers à 15h, on a déjeuné à 17h. Les gens ont oublié leur peur, leur frayeur, pour se rappeler que de la joie de la fête. Certains ne se rappellent que de leur port, mais d'une façon, disons, club des cinq, pour des soirées entre amis. Tout le monde dit à la mère qu'ils ont passé une soirée magnifique. Charlotte le croit aussi. Ne se souvient que des cris de joie des gens, la musique et des plaintes un peu spéciales. Mais c'était sans importance. C'était donc une soirée comme elle aimait.
Malheureusement, nous partons demain matin. Oui. Les ouvriers vont commencer après-demain le chantier. Et le château que vous avez connu ne sera plus. On lui dit que c'est bien dommage.
et ils sont partis. Gilbert est bien heureux que la corvée soit finie. Le voyage se passe bien. L'on chante moins à cause de la fatigue. Arrivé à Paris, chacun entre chez soi. Charlotte est heureuse, son séjour s'est bien passé. Gilbert lui dit, et la frayeur dans la cave.
Ça a donné du piment au séjour.
Qui nous a fait peur? Elle lui dit.
Peut-être les domestiques.
Pourquoi, c'est toi qui leur donnais l'ordre de le faire?
Non.
Et le vent?
Je ne sais pas, un courant d'air. Tout ça, ce n'est rien.
Tu veux me faire croire que c'est une histoire de fantôme ou autre? Oui. Et c'est des bruits bizarres?
Rien, des échos, ce n'était rien.
Puisque nous sommes là. Oui, mère, mais il y a un mystère, elle lui dit.
Tu trouveras la solution plus tard. Va te coucher. Il se fait tard.
Il commence à monter à l'étage et lui dit.
Quand on trouve du mystère, l'on trouve toujours.
Oui, mère. Les jours passent. Un après-midi, Gilbert va attendre Nathalie à la sortie de ses cours, comme d'habitude. Puis, il décide d'aller boire un verre au café où ils vont d'habitude. Assis à une table, ils commandent leur boisson. Nathalie voit que Gilbert est triste. Elle lui demande, ça ne va pas? Il lui dit, si ça va, mais je m'aperçois que l'on tourne en rond. On fait toujours la même chose. Elle lui dit, tu veux qu'on soit ailleurs? Je ne sais pas. Ils voient arriver vers eux un grand jeune homme mince dans les 25 ans. Blond, le visage fin, habillé d'un costume beige et une serviette en cuir marron. Il lui dit, bonjour, vous êtes Nathalie?
Oui,
je suis Gérald Findler. J'ai quelque chose à vous dire. Je peux m'asseoir? Elle lui fait, oui. Il s'assoit et lui dit, vous êtes étudiante?
Oui.
Je me suis renseignée sur vous. Vous êtes très bien notée. Et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard?
Elle lui dit, journaliste ou professeur d'histoire?
Il lui dit, c'est bien ça. Il en faut. La recherche ne vous intéresse pas?
Elle lui dit, j'en fais déjà en histoire.
Il lui demande, vous avez trouvé du travail pour plus tard? Vous avez un projet d'embauche?
Elle lui dit,
non. Gilbert lui dit, mais qui êtes-vous pour poser des questions?
Le jeune homme lui dit,
je fais partie d'un groupe industriel très important qui recherche à recruter des jeunes gens. Ils veulent les recruter le plus jeune possible pour pouvoir les former et pour empêcher les cerveaux d'aller travailler à l'étranger. La France a peu de cerveaux et s'ils partent, elle est perdue. Elle deviendra un pays sous-développé. La richesse d'un pays, ce n'est pas l'or, ni la production, mais la matière grise, le cerveau humain. Malheureusement, en France, nous avons de plus en plus de gens primaires, et ces gens primaires font facilement tache d'huile sur les jeunes, parce que c'est plus facile de descendre que de monter. Plus facile de singer des primaires qui vivent d'instinct, au jour le jour, qui ont des morts avec peu d'interdits. Voyez comme les gens, à part vous, comme ils se comportent, ça crache, ça crie, c'est sale. Ça aime les choses primaires, et comme les jeunes ont de plus en plus, sont de plus en plus comme ça. C'est pour cela qu'on le recherche à protéger des gens comme vous. Nous vous suivons dans vos études et dès la fin de vos études, nous vous embauchons. Gilbert demande « Pour qui ?» Le jeune lui dit « Notre société est une société qui a des activités très diverses, toujours basées sur le cerveau. En réalité, nous sommes un nouveau genre d'entreprise. Nous sommes une entreprise de cerveau. Nous vendons aux autres entreprises les idées, l'intelligence de nos cerveaux, mais pas les cerveaux. Une personne, une entreprise qui a un problème, il va vers nous, nous demande de nous le résoudre. Nous résoudons aussi n'importe quel problème, même les problèmes privés et de santé. Embaucher tous les gens qui ont une intelligence supérieure et un grand savoir dans leur domaine, mais quel que soit leur domaine. Plus nous avons de domaines différents, mieux c'est pour nos clients et pour nous. Et en plus, nous créons des données informatiques et des sites internet. Nous sommes une entreprise de cerveau humain universel, parce que le monde entier peut nous demander nos services. L'entreprise du troisième millénaire, c'est nous. Gilbert lui dit, au lieu de fabriquer du fromage, c'est des idées et de l'intelligence. Oui, Gilbert demande. Et ça paye bien? Assez, oui. Pour éviter que les cerveaux s'échappent, on est obligé, c'est de bien payer les gens. Et où est l'entreprise? Elle va être construite à Lyon, quartier Gerland. Vous voyez? Non, je ne connais pas bien cette ville. J'ai visité une entreprise, Pontoise-Dieppe. Le jeune homme lui dit, c'est bien, c'est dans ce quartier, pas bien loin. C'est très simple. Jean Corpoix aura un bureau. Jean Corpoix aura un bureau avec un ordinateur. Il y aura dans l'immeuble une médiathèque. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.